Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Je m'appelle Estelle Schorp, je suis née en France et Yves Tanré m'a demandé de faire mon autoportrait de musicienne. Je suis pas super à l'aise avec le terme de musicienne. En général, j'utilise plus le terme artiste sonore si je dois me définir. Je trouve ça pas mal intimidant de devoir dresser mon autoportrait. Comme bien des parcours, le mien est loin d'être linéaire et est loin d'être certain.
J'ai 26 ans, mais seulement 4 d'utile. Je ne comprends rien à rien.
J'ai l'envie que ça prenne la forme plus d'une exploration à tâtons, sous le signe de la dispersion et du questionnement. Récemment, je travaille sur une suite de compositions qui s'appelle « Les anémochories ». Anémochorie, c'est le terme qui définit le phénomène de dispersion des graines par le vent. Ça constitue le plus grand pourcentage en fait, de dispersion de la vie. C'est par le vent, après l'eau, après les animaux. Chaque composition a un point commun, c'est que certains de ces paramètres sont modulés par les données du vent, soit la force, soit la direction, et notamment la spatialisation. J'aimais cette idée que les sons soient spatialisés par le vent directement. C'est pas un hasard, je pense, si depuis quelques mois je travaille sur des compositions dont les sons se laissent porter par les courants éoliens. Je pense qu'il n'y a pas que les sons qui se font emporter en ce moment. Je pense que je me fais un petit peu emporter aussi. Ce qu'on entend là, c'est le vent d'Islande. C'est un vent que j'ai enregistré en mars 2018, alors que je me rendais à Vik, dans le sud de l'Islande, en voiture. Le vent de cette journée était particulièrement violent. J'étais pas très à l'aise de conduire. Et je suis sortie une fois de la voiture pour parce que ma curiosité a été plus forte et je voulais aller voir un glacier. Et j'étais obligée de marcher à quatre pattes pour avancer tellement le vent était violent. Et j'ai choisi de commencer cette émission avec le vent violent, le vent qui te pousse quand t'es dans le bon sens et le vent qui t'empêche d'avancer quand tu es dans l'autre sens. Parce que, voilà, ça va faire un an bientôt que la pandémie du Covid-19 a quand même pas mal changé nos vies collectivement. Et ça fait un an que je me sens en fait dans cette voiture. C'est-à-dire à l'abri d'un vent violent et la peur d'être emportée par le flot des événements du moment. Le vent, c'est un élément avec lequel j'ai grandi, puisque j'ai passé pas mal de temps dans des régions montagneuses, notamment dans les Vosges et dans les Alpes, entre autres. Cette relation-là que j'avais avec certains espaces naturels, entre guillemets, a quand même participé à cette curiosité et cette certaine obsession que j'ai aujourd'hui pour... pas pour la nature, mais pour la place qu'on y occupe et les interrelations en fait, entre les humains, entre les autres êtres vivants, entre l'environnement. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent dans ma pratique et dans mes réflexions, mais qui s'est construit petit à petit et qui, je pense, a pris racine dans ces longs moments que j'ai pu passer dehors, au milieu de nulle part. Et il y avait déjà, depuis que je suis petite, cette question assez vertigineuse de « c'est quoi ma place là-dedans ?» C'est quoi ma place dans cette chose qui me paraît immense, qui est l'environnement et tous les êtres vivants et tous les relations en constante évolution qui le composent. Il y avait donc une fascination déjà très jeune pour l'environnement naturel, entre guillemets, et cette fascination est toujours là. Et j'utilise le terme fascination parce que dans fascination, il y a à la fois l'admiration mais la crainte. Parce que je ne peux pas nier qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de vertige. Il y a encore beaucoup de vertige. Il y a encore beaucoup de pertes d'équilibre face à ces questions-là qui restent vertigineuses. Vertigineuse mais passionnante. Alors, enfant qui aime se balader dehors, mais aussi enfant qui joue du piano, parce que oui, alors c'est vrai que j'utilise plus le terme artiste sonore, mais j'ai quand même une formation de musicienne et le piano a occupé une certaine partie de mon enfance. Plus loin que je puisse me souvenir, le premier contact que j'ai eu avec la musique. Et ce contact-là, en fait, il a été facilité parce que j'ai été doublement chanceuse. La première chance que j'ai eue, c'est que on avait un piano dans le salon. Et puis, deuxième chance que j'ai eue, c'est que mes parents ont su observer un petit peu mes comportements et ma joie de jouer et d'écouter déjà très jeune. Et qu'ils m'ont aidé à développer ça. Alors, bien évidemment, il n'y a pas eu que le piano, il y a eu la musique en général, et il y a eu le plaisir de l'écouter. Je ne viens pas d'une famille de musiciens à proprement parler, mais je pense que ça écoutait beaucoup de musique quand même à la maison, beaucoup de la musique classique, de la pop, de la chanson française, du jazz. Ce que je me souviens, c'est que, en tout cas, moi, j'en écoutais beaucoup et je dansais. Je me souviens que je dansais. Puis je chantais aussi. Je les rechantais beaucoup. au-delà d'un moyen de m'exprimer, la musique au départ c'était plus un moyen de bouger, de fêter les choses, de se raconter des histoires, de s'inventer des mondes. C'était tout ça la musique avant de devenir un moyen d'expression. J'ai arrêté le piano quand j'étais ado. Certains ou certaines pourraient peut-être voir ça comme une crise d'adolescence. Moi, je voyais ça comme déjà une sorte de premier burn-out. J'étais absolument épuisée, essoufflée par le stress que le conservatoire me générait en fait, et je prenais plus de plaisir du tout. C'était devenu de la performance, et moi j'étais là pour jouer, pour m'exprimer, pour m'amuser, et j'ai pas aimé quand j'avais 12-13 ans. Après maintes négociations et drames, parce qu'apparemment j'étais quand même pas trop mauvaise, voilà, j'ai arrêté un petit moment quand même le piano, j'y ai pas touché. Et c'est à ce moment-là en fait que une curiosité ou un moyen d'expression en remplaçant un autre, j'ai commencé à m'intéresser aux arts visuels. Donc à ce moment-là, c'était clair que la musique a arrêté d'être un moyen d'expression. À cette époque-là, je pense à cet âge-là, une explosion en fait de découvertes musicales, comme aussi des moyens de trouver des discours ou des modèles qui nous inspirent. L'expression était devenue à moi la peinture, le dessin et déjà un petit peu l'installation. L'art n'a jamais été prédominant quand j'étais ado, c'est-à-dire que c'était un intérêt et ça éveillait chez moi beaucoup de curiosité, et tout comme beaucoup de choses éveillaient en moi de la curiosité. J'avais la chance d'être une élève sage et douée. Et j'avais des très bons résultats scolaires et je m'intéressais à vraiment beaucoup de choses. Donc moi, je suis allée dans une spécialisation scientifique au lycée. Je me disais qu'être pragmatique, ça pouvait peut-être servir dans la vie. Et c'est sûr que ça sert. Après, j'ai hésité à faire Sciences Po, j'ai hésité à faire... une prépa littéraire, j'ai hésité à aller en faculté d'archéologie. J'avais des intérêts assez multiples et complètement à l'opposé les uns des autres, bien que je pense aujourd'hui que beaucoup de choses se recoupent, mais à l'époque, ça faisait un peu ni queue ni tête ce que je voulais faire. Et ça a été presque en fait en dernière minute où j'ai dit « Ok, non, je veux faire de l'art, je veux aller à Paris, je veux tenter les grandes écoles. » Enfin, dit comme ça, on a l'impression que j'ai pris cette décision sur un coup de tête, mais ça a été de longues oscillations entre réflexion et intuition. Et je pense que ces oscillations-là, entre réflexion et intuition, déterminent beaucoup de mes choix aujourd'hui. Choix autant dans la vie de tous les jours que dans ma pratique artistique. Et dans cette oscillation, je me suis retrouvée donc à Paris quand j'avais 17 ans et j'ai intégré l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Alors, c'est pas pour rentrer dans les clichés, mais c'est sûr que mon arrivée à Paris, c'était à la fois teinté d'excitation, mais aussi d'appréhension. Et ça a quand même été un changement assez brutal entre les Vosges et la capitale. Et je pense qu'en fait, le truc le plus... Le plus intense, c'est que je ne m'étais jamais retrouvée avec autant d'humains et autant de bruit. C'était bruyant. Évidemment qu'il n'y avait pas que des côtés négatifs. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses ou même de prendre conscience de beaucoup de choses, je pense. Je me retrouve dans un environnement urbain qui a rien à voir avec l'environnement rural. Et là, à la question quelle est ma place dans cet environnement-là, c'est... déjà, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais c'est pas par les mêmes moyens qu'on tente d'y répondre. En fait, c'était plus vraiment la question quelle est ma place, mais plus comment s'orienter. Comment s'orienter à tous les niveaux. Donc comment s'orienter artistiquement, comment s'orienter personnellement, comment s'orienter politiquement, dans toute cette diversité de choix possibles et inimaginables. Et c'est avec curiosité que j'ai exploré beaucoup de choses quand j'étais aux Beaux-Arts. J'ai exploré beaucoup de techniques, de médiums. J'ai même fait de la taille de pierre. Enfin, vous me direz, j'ai passé plus de temps à enregistrer mes collègues faire de la taille de pierre que moi-même tailler de la pierre. Et c'est en explorant comme ça, d'une technique à l'autre, d'un matériau à l'autre, que je me suis inscrite à un workshop qui s'appelait Son, tout simplement. Et au cours de ce workshop, on m'a mis entre les mains ma première enregistreuse, casque sur les oreilles, et c'était parti. Ma première exploration sonore de l'environnement a été une de mes plus grandes découvertes. Ça m'a permis de faire basculer mon attention envers l'environnement sonore. Une attention que je pensais déjà assez accrue. En tout cas, une curiosité, mais là, avec le micro... Il y a eu vraiment un basculement. Donc le monde sonore autour de moi à la fois se précisait, je pouvais entendre le son avec une précision assez magique, et en même temps il s'élargissait puisque je pouvais entendre plus loin. Il se composait déjà en fait. L'environnement il se composait. Sous mes yeux, entre guillemets, mais en fait, sous mes oreilles. Alors, je suis passée par une phase un peu boulimique d'enregistrement. J'enregistrais absolument tout. J'enregistrais à la fois des objets. Hein. Il y avait une recherche un peu de matériaux, c'est de qualité interne au son. Alors, je tapais sur tous les objets que je trouvais je faisais des enregistrements avec plein de micros différents. J'explorais beaucoup cette dimension-là. L'enregistrement a été un bon départ, on va dire, dans ma pratique du sonore. Après, il y avait, au-delà d'enregistrer des matériaux, il y avait aussi une... En fait, j'aimais beaucoup documenter mon quotidien. Et très vite, en fait, je suis retournée dans des environnements sonores naturels, entre guillemets, et j'ai commencé à faire du field recording. J'en ai fait quand même beaucoup. J'ai fait beaucoup de pièces avec du field recording. Bien sûr, à cette époque aussi, évidemment, j'ai découvert énormément de compositeurs et de compositrices de la musique concrète, de la musique électroacoustique, de la musique anecdotique de Ferrari aussi, qui m'a beaucoup influencée. Évidemment le soundscape de l'Ouest canadien avec Murray Schafer, Barry Truax ou Hildegard Westerkamp.
Mais il avait un très beau bruit de peau de oiseau après ça.
Mes premières pièces, elles étaient plutôt narratives. Il y avait un contexte, il y avait une histoire, il y avait une progression, il y avait des tableaux un peu. Je pense que mon intention, c'était de partager une expérience sonore. Au début, c'était vraiment rendre sensible à l'expérience de la marche. Donc à l'écoute qui évolue, et puis en fait ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné tu passes de l'écoute attentive à la distraction, c'est-à-dire t'as des pensées qui arrivent et puis t'as l'imagination qui embarque, tu poses ton regard sur quelque chose ou un son te fait partir un peu dans tes pensées je pense qu'au départ mes premières pièces c'était un peu ça, c'était des environnements sonores, du field recording où on reconnaissait qu'on était dans un environnement sonore naturaliste. Et puis petit à petit, des éléments comme ça qui émergeaient et qui partaient plus en motifs musicaux. qui venaient un petit peu ornementer ou en fait se détacher un peu du fond, comme prendre un peu plus de place jusqu'à ce que finalement ce soit l'environnement sonore naturaliste qui reprenait de la place. Il y avait un peu ces oscillations-là entre, quelque chose de naturaliste qui part dans quelque chose d'un peu fantastique. Cet entre-deux-là, c'est encore quelque chose qui m'intéresse, l'entre-deux entre le naturaliste et le fantasmé. Puisque Bernie Krause, compositeur et bioacousticien, a consacré sa vie à l'étude de la biophonie en particulier, et de son organisation, de sa fragilité et de sa protection. Et je pense que je me suis de plus en plus enlignée, non pas que j'ai une pratique de bioacousticienne du tout, mais... Je pense que j'ai été quand même très sensibilisée à cette question de la fragilité, parce que je m'en rends compte à chaque printemps où je rentre dans les Vosges et il y a de moins en moins d'oiseaux. Ça, c'est indéniable, je le sais sur mes enregistrements, qu'il y a moins de... La vie s'entend moins, en tout cas. Elle est peut-être ailleurs, mais il y a une dégradation quand même des écosystèmes naturels et donc des écosystèmes sonores naturels. Donc là, ça m'amène à faire un lien avec l'écologie. L'écologie qui prend une place de plus en plus importante dans ma vie de tous les jours et dans ma pratique artistique également. Depuis, je dirais, environ 3 ans, il y a une volonté de me pencher sérieusement sur la question, autant au niveau pratique qu'au niveau conceptuel. En 2017, j'ai fait un échange universitaire à l'Université des Arts d'Helsinki. Et au cours de cet échange, j'ai fait une courte résidence en Laponie, à Kilpisjärvi, qui est une ville qui se situe à la frontière entre la Suède et la Norvège. Et cette résidence, en fait, elle s'appelait Connect, a Nordic Project Connecting Arts and Environmental Sciences. Il y avait des étudiants en art visuel, en danse, il y avait des étudiants d'Helsinki, des étudiants de Stockholm, de Reykjavik, et des professeurs d'art et des scientifiques, des biologistes. Moi, c'était en fait une semaine un peu de recherche-création, de réflexion autour, c'est ça, des connexions entre l'art et les sciences environnementales, et plus précisément, en fait, une réflexion autour de l'écologie et de la place des pratiques artistiques. Ça a été une expérience quand même très singulière et très enrichissante dans mon parcours. Alors je vous remets un peu de contexte. En fait, on se trouve dans une station biologique de Kilpisjärvi. Alors là, ça sonne un peu station spatiale, mais c'était juste une maison avec des chambres et une cuisine commune et des laboratoires. Et en fait, cette maison a été vraiment coincée entre le lac Kilpisjärvi et la montagne Mana, qui est une montagne sacrée pour le peuple sami. Et c'était vraiment une semaine où on avait à la fois des conférences et aussi beaucoup de temps libre pour expérimenter chacun et chacune à sa manière le lieu, en fait, le territoire en tant que tel. J'ai jamais perçu un silence comme celui-là. Je pense que c'est Michel Chion qui parle de décibels négatifs pour parler de la sensation auditive qu'on a, par exemple, en haute montagne quand il y a beaucoup de neige. Et je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Il y a un poids sur les tympans, il y a une lourdeur, un silence vraiment très très lourd. Et pas tant angoissant, mais c'est une expérience. C'est une expérience, on n'est pas tant habitué. Puis bon, après évidemment la nuit, hein, parce qu'on est en Laponie en février, donc il y a 4 heures de jour par jour. Il fait moins 40 et on ne peut pas aller très loin, il fait trop froid. On a des risques de geler parce que l'air est tellement sec en fait qu'on ne sent pas qu'il fait froid. Donc si on part longtemps, on peut très bien revenir avec un doigt ou un doigt de pied gelé. Donc ça limitait pas mal les possibilités, donc en fait ça concentrait plutôt que limiter, ça concentrait les possibilités. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps sur le lac en fait. Le lac, si tu le traversais, tu pouvais arriver directement en Suède. Et voilà, il faut imaginer une grande étendue blanche à perte de vue, et marcher là-dedans, c'est une expérience, quoi. C'est une distorsion de l'espace et du temps vraiment assez incroyable. Et je comprends pourquoi on a inventé le traîneau. Parce que marcher sur des kilomètres comme ça, où il n'y a absolument aucun relief, c'est blanc de chez blanc. Ouais, c'est fatigant. Donc j'ai pas produit grand chose. J'ai beaucoup reçu, je me suis beaucoup imprégnée, mais j'ai rien produit. Je pense que j'ai produit un enregistrement de quand on était allé pêcher. Donc on avait utilisé un espèce d'outil, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de vis, de grosse vis comme ça qu'on tourne pour percer un trou dans la glace. Glace qui faisait d'ailleurs un peu plus d'un mètre d'épaisseur. Et donc au-delà de ça, on avait beaucoup de conférences et donc on en apprenait un petit peu davantage sur les interdépendances entre environnement, animaux et humains, et comment en fait le réchauffement climatique avait un impact direct sur les environnements nordiques, et donc un impact sur les animaux et sur le mode de vie des populations. Et bon... je pense que les professeurs n'étaient pas là pour nous ménager, donc c'était quand même assez clair que c'est pas drôle ce qui se passe. Je pense que ça a été ma première prise de conscience, une vraie prise de conscience, en fait. Parce que bon, la crise écologique, on en entend parler depuis un petit moment, mais là, il y a eu comme un sentiment d'impuissance qui s'est installé, qui était très fort, et déjà une question de... Qu'est-ce que je fais en tant qu'artiste, en fait ? C'est quoi créer face à la crise écologique ? Comment je peux faire, moi, avec ma sensibilité, mes outils, pour parler de ça de manière intelligente ? Alors voilà, imaginez-moi me poser ce genre de questions sous les aurores boréales, ça fait un peu romantique, mais c'était le cas, parce que c'était quand même vraiment beau là-bas, même si c'est... Il y avait en plus cette espèce de chose très difficile de... C'est magnifique, nous on arrive là, on est complètement... subjugué par la beauté des paysages et à quel point c'est sauvage et de voir à quel point en fait ces environnements sont menacés. Et nous, on était là à s'extasier. Alors il y avait cette espèce de vertige, encore une fois. Alors, aller savoir pourquoi, je me suis souvent retrouvée dans des paysages nordiques. Et je me plains d'avoir froid, mais bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme un aimant, je me retrouve dans les Grands Nords. Mais là, en ce moment, donc en février 2021, je suis à Montréal, où j'ai déménagé depuis 2 ans et demi maintenant pour continuer mes études et mes recherches, continuer à approfondir ma pratique et mes réflexions. Encore sous la neige. Hein. Pourquoi ? Peut-être parce que j'aime le silence. Je pense que j'aime le silence. Donc il faut accepter le froid avec. À Montréal, ma pratique a pris un certain tournant. C'était le but aussi. Donc Montréal, il y a quand même une scène des arts numériques et médiatiques non négligeables. C'est quand même super, super dynamique. Ça parle d'intelligence artificielle à tous les coins de rue. Là. Je stéréotype un peu, mais c'est quand même un gros truc. Et puis, éventuellement, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux technologies interactives et à voir comment peut-être je pouvais intégrer ça à mes installations sonores ou à mes compositions de manière intéressante. Et en fait, c'est février 2019. Hey, mine de rien, février, il s'est passé des trucs. J'ai toujours associé ce mois à... un vide assez intergalactique au niveau inspiration, etc. C'est un peu un mois d'hibernation, mais finalement, quand je creuse, les février, mars, il s'est passé des trucs. Et bref, du coup, février il y a 2 ans, je travaille sur une installation qui s'appelle Écosystème. Et c'est ma première installation qui utilise des technologies interactives. Cette installation-là, je pense qu'elle marque un tournant dans ma pratique, puisqu'elle elle parle directement d'écologie. Donc en fait, l'idée, elle m'est venue à la suite de la lecture d'un article qui parle de techniques de communication des insectes orthoptères. Et brièvement, ça explique comment les insectes ont inventé des systèmes de communication qui leur permettent de se distinguer, de se reproduire, de chasser, de jouer, de chanter, de faire plein de choses aussi créatives les unes que les autres, tout en s'adaptant continuellement à leur environnement qui lui-même change. Et dans cet article, il y avait aussi un jargon très musical, puisque ça parlait de rythme, de silence, de timbre. Alors je me suis dit qu'il y avait à la fois un concept super intéressant d'autorégulation, de codépendance avec son environnement, etc. Et des idées de matériaux sonores à exploiter. Et donc moi, j'ai choisi de partir des insectes. J'avais beaucoup d'enregistrements d'insectes, j'ai fait pas mal de synthèses aussi pour imiter un petit peu ce genre de comportement. Et là, en fait, La grande question, c'était je ne veux pas composer. Voilà, c'est la première fois en plusieurs années que je me donnais cette règle de ne pas composer. Je ne veux pas être celle qui décide qui vient avant qui. Je veux que tous ces échantillons-là s'auto-régulent. C'était un peu le mot d'ordre, c'était l'auto-régulation. Bon, j'avais aucune idée comment faire. Puis je commençais à partir dans des choses super compliquées parce que j'avais absolument aucune connaissance dans tout ce qui est un peu algorithmique, etc. Alors je posais des questions à des gens qui s'y connaissent. Et puis je partais dans des espèces de schémas compliqués, de conditions. Et je me suis dit, bon, je ne vais jamais y arriver. Hein, c'est un peu trop complexe. Et en fait, finalement, je suis un peu revenue à la base. Je me suis dit, bon, réfléchis deux petites secondes. Les insectes, comment ils font pour s'autoréguler? Ils s'écoutent. Alors, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de rajouter des micros. J'étais en train de faire un système avec des boucles de rétroaction. Et en fait, le système s'écoute. Donc, il y a tout un système basé sur des seuils d'intensité. Mais en fait, les échantillons sont réintégrés. C'est-à-dire que les insectes chantent et sont réintégrés. Ils s'écoutent eux-mêmes et ils écoutent l'environnement et ils s'autorégulent grâce à un système de seuils d'intensité. Alors l'idée, elle est super simple, mais elle amène pas mal de questions, puisqu'en fait, déjà là, il y a une approche écosystémique, donc on arrive dans une pensée systémique, et l'idée, c'était d'essayer de l'appliquer à la composition ou au travail du sonore. Ça m'a ouvert tout un monde de lecture, en fait, sur le sujet, sur la pensée systémique, sur l'écologie, sur les interdépendances entre, que ce soit des En fait, c'est ça. Je pense que je commençais à me rendre compte que j'étais plus passionnée par le vivant que la nature en soi. Je parle de nature beaucoup depuis le début. Mais là, je pense que, le vrai terme, c'était je m'intéressais au vivant et au tissu du vivant, un petit peu dans lesquels on est imbriqué et qui se transforme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comment prendre soin de ce tissu-là, peut-être en y faisant plus attention, premièrement, en se rendant sensible à toutes ces vies hein, autour de nous. Donc moi, je travaille sur les vies sonores, mais ça pourrait être plus large. Ce que je trouve intéressant dans cette installation, c'est que l'interactivité, elle est un peu prise à son propre jeu, puisque comme le système réintègre les données sonores, la présence sonore du public est prise en compte. Donc le public a quand même un impact, mais le public n'est pas un organe vital. S'il n'y a absolument pas d'humain, l'installation, elle va continuer de rouler. Et pour moi, ça, c'était super important, parce que c'est super simple, mais ça pour moi, ça en dit long sur la place de l'humain et ça remet un petit peu à la place aussi. C'est-à-dire que finalement, cette installation-là, elle demande comme interaction du silence. C'est une interaction qui est silencieuse. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent puisque dans la plupart des installations interactives, on a besoin des humains, soit pour qu'ils bougent, soit pour qu'ils appuient sur des boutons, je ne sais pas. Mais bon, il y a un besoin d'action quand même. Et là, en fait, il y a une demande d'attention silencieuse. C'est là que se fait l'interaction et c'est comme ça que le système sonore peut faire émerger des motifs. Alors, en tant que compositrice ou artiste sonore, comment représenter, comment rendre sensible à toutes les organisations, les inventions vivantes avec lesquelles on cohabite? Donc c'est une grande question et je ne suis pas la seule à me la poser, évidemment. Et encore plus en cette période de pandémie où on se rend bien compte que là, il y a comme une évidence de justement ces relations de codépendance un peu globale. Hein. Et je reviens à ça pour faire un peu de cohérence, en fait, parce que j'ai commencé par ça, par le fait que je me sentais dans une voiture ballottée par le vent depuis un an. Et c'est encore le cas, hein. La rapidité avec laquelle les événements se passent est quand même assez effrayante. Donc à la question « comment s'orienter ?» que je posais au début, plutôt que « quelle est ma place ?»« Comment s'orienter artistiquement ?» c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, mais en tout cas, en ce moment, j'oriente mon travail vers justement cette question écologique abordée avec la pensée systémique. Comment appliquer ça, en fait, dans les pratiques artistiques du sonore et la musique. Donc avec mes outils, en fait, avec ma sensibilité. Mon moyen d'expression, c'est les sons. Et comment, en fait, ça peut, finalement, quand même contribuer à ralentir un petit peu et à commencer à comment s'organise la vie autour pour essayer d'arrêter un petit peu, peut-être de la détruire, je sais pas. Sans vouloir prétendre à aucun discours moraliste ou quoi, c'est une exploration, je suis pas la science infuse. Il y a tellement de choses que je sais pas. Nous sommes sur Aligre FM dans La vie est un roman. Merci.